Cette semaine, de lundi à vendredi, Nejma Bouakra rencontre Françoise Vergès. Ce soir, dépaysement.
Toute une vie prise dans un mouvement de décentrement. La France n'est pas la même, vue de la Réunion, de la Guyane, de Guadeloupe. Qu'est-ce que cette vie, conçue comme étant à la périphérie, dit du centre ? Françoise Vergès, vous dites de l'île de la Réunion, quelle est votre archive ? Celle à laquelle vous revenez pour vous ressourcer, explorer ses silences et résonances au-delà des mers. Vous êtes une éminente chercheuse en sciences politiques sur les questions de la traite, de l'esclavage, de la colonisation. Formée à Berkeley, vous enseignez en Angleterre, en France, mais aussi sur le continent africain. Bonsoir Françoise Vergès. Bonsoir. Revenons à la jeune femme qui, à 16 ans, part pour l'Algérie.
On est le semestre du lycée avait déjà commencé, c'était la terminale. Et donc je veux partir, je décide de partir, on en discute avec mes parents me laissent partir, ce qui est quand même été aussi assez exceptionnel, parce que j'étais quand même une toute jeune fille. Donc je vais à Alger, et j'habite donc chez Jacques Vergès et Jamila Bouhired, qui était l'épouse de mon oncle.
Qui est-elle ? Qui alors, est-il ?
Jamila Bouhired, c'est une grande héroïne de la lutte pour l'indépendance nationale. C'était une jeune femme qui s'engage dans la lutte armée, dans la bataille d'Alger, qui sera arrêtée par les parachutistes, blessée, torturée, condamnée à mort. Jacques Vergès va la défendre. Elle est condamnée à mort et elle sera, comme la plupart des femmes algériennes condamnées à mort, elle restera plusieurs mois en prison. Elle sera graciée à la fin de la guerre.
Quelle est la plaidoirie de Jacques Vergès ?
Jacques Vergès, avec plusieurs autres avocats, avait institué ce qu'ils ont appelé la stratégie de rupture, c'est-à-dire de contester au tribunal le droit de juger ces personnes en disant « vous n'avez pas le droit puisque vous êtes un tribunal illégal, puisque vous êtes un tribunal d'une puissance qui occupante et que ces personnes se battent pour l'indépendance ». Et il va écrire sa défense qui s'appelle « Poujamila Bouhired » qu'il n'a pas pu vraiment développer parce que c'était dans un tribunal militaire avec les parachutistes qui hurlaient à mort », qu'il publiera avec Georges Arnaud. Et donc toute cette stratégie qui sera aussi pas seulement celle de mon oncle, mais celle de d'autres avocats algériens et français, va être vraiment différente des autres stratégies de défense qu'ils appelaient des stratégies de compromission, qui acceptaient la loi française. Donc ça c'est Jacques Vergès, enfin ça c'est Jamila Bouhired, et donc moi petite j'en avais entendu parler, et c'était évidemment quelqu'un que j'admirais énormément. L'idée que cette jeune femme, à 16, 17 ans, soit armée, se batte, c'était pour moi... L'Algérie représentait pour moi le pays qui s'était libéré du colonialisme français. Donc moi, vivant dans une colonie française, j'avais évidemment énormément d'admiration pour ce combat et pour ce que les Algériens avaient réussi.
Oui, l'Algérie est un petit peu l'épicentre pour beaucoup de résistants africains, et bien l'épicentre politique de la résistance, des indépendances. Qui croisez-vous là-bas ?
Quand j'arrive, donc je suis au lycée qu'on appelait le lycée Descartes, qui est maintenant le lycée Ibn Khaldoun, et qui a été le quartier général du gaullisme pendant la guerre. Un magnifique, magnifique, magnifique monument sur la colline d'El Biar, très très beau. Et je noue des amitiés avec des Algériennes, et des Algériens, mais aussi avec les enfants d'indépendantistes du Mozambique, de l'Angola, ou des Brésiliens qui avaient fui la dictature militaire, dont les parents avaient fui. Et donc les enfants sont là, donc on constitue une petite troupe très très rebelle, on faisait des fêtes ensemble, on sortait ensemble, on allait au cinéma ensemble.
Tout est encore possible en Algérie à cette époque, les pieds rouges sont là aussi.
Oui, il y a des pieds rouges, bon, il y en avait qui étaient au lycée, hein, qui étaient nos professeurs. Les professeurs voyaient bien qui était dans la salle et qui était devant toute notre petite troupe, là. Et on a donc connu des professeurs qui étaient venus pour construire le socialisme en Algérie. Notamment certains qui étaient des situationnistes, qui avaient été, donc je découvre aussi le situationnisme, ce que c'est, puis d'autres qui avaient été trotskistes, enfin, ou qui l'étaient encore. Et donc je me mets à connaître ces théories, on pourrait dire, et ces idéologies portées par des Français en Algérie. Et puis je fréquente aussi beaucoup d'Algériens qui sont aussi des opposants ou qui sont dans la culture beaucoup, dans le théâtre, des artistes. Donc je suis parce que bon, je passe mon bac de justesse, je dois dire, vraiment de justesse. Vraiment, c'est parce que j'avais été bonne élève que je dois passer l'oral, et vraiment c'est l'oral qui me rattrape, et notamment l'histoire-géographie parce que j'étais très 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 bonne, mais sinon j'avais pas mon bac, hein. Je vraiment c'était pas possible que je.
Vous étiez dissipée, mais vous étiez logée chez Georges Arnaud,
oui,
qui était
Georges
un ami de votre oncle Jacques Vergès. Georges Arnaud donc qui a écrit Le salaire de la peur, qui est un best-seller en 54.
Oui, qui était un best-seller, oui, parce que quand je suis en Algérie, mon oncle s'en va en février.
Il disparaît.
Voilà, il part pour 8 ans, donc je quitte la maison de Jamila, et en fait, mon oncle savait qu'il partait, donc il avait tout organisé, et un matin, Georges Arnaud se présente chez Jamila et dit, ben voilà, tu vas venir chez moi. Donc moi, je me retrouve, je les connaissais pas, hein, je me retrouve chez Georges Arnaud. Sa femme travaillait à la radio-télévision algérienne, et ils avaient deux petites filles, et puis une dame qui travaillait chez eux, une dame kabyle. Et donc, je me retrouve là, je connaissais personne, hein, j'étais... Il n'y avait pas de mail à l'époque, il n'y avait pas de Skype, il n'y avait pas... Je suis assez... Il y a des moments assez solitaires, quoi, pour... J'avais quand même que 16 ans. Hein.
Vous étiez un peu sans famille, d'une certaine manière.
Parce que, vous savez, c'était... J'envoyais des lettres à ma mère, mais ça prenait un certain temps qu'elle me réponde. Je ne pouvais pas appeler maman, hein, ni papa. Hein. J'étais un peu seule. Et puis, les Georges Arnaud, ils étaient très gentils, mais enfin, ils avaient leurs affaires, quoi. Bon, j'étais pas leur enfant, hein.
Mais quelle figure autour de vous, alors votre oncle, bon, qui a disparu certes, mais également Georges Arnaud, qui est quand même une personnalité aussi, enfin, assez mystérieuse, que de personnages mystérieux. Donc Jacques Vergès qui disparaît, Georges Arnaud, qui a été accusé d'un crime, mais on ne sait pas bien finalement qui est le criminel dans cette histoire, qui sera lui-même défendu par Maurice Garçon, qui est un éminent avocat du début du siècle, enfin bon, voilà... Qu'est-ce que ça fabrique chez vous, ça? Parce qu'il y a à la fois du mystère, de la clandestinité, celle de votre père, à la Réunion, plus jeune.
Alors, ça fabrique d'apprendre à être seul, d'apprendre à savoir que les gens ne vous... Comment dire? C'est pas parce que quelqu'un est mon père, ou mon oncle, ou un protecteur comme Georges Arnaud, qu'ils me doivent nécessairement quelque chose, ils ont leur propre vie. Avec leur propre logique, et qu'ils me donnent ce qu'ils ont à me donner. Tous ces gens m'ont beaucoup, beaucoup aimé, je n'ai rien à leur reprocher, mais en même temps, ils ont leur vie. C'est-à-dire que je ne peux pas, ils ne m'appartiennent pas. Je ne les possède pas parce que j'ai ce lien avec eux. Ça apprend ça, ça apprend aussi que les gens ont des secrets. Mais le secret, on avait quand même été assez élevé là-dedans, hein, apprendre à garder sa langue, à garder des secrets, mais donc d'apprendre que les gens, ils ont des secrets.
Il y a des secrets importants, il y a des secrets qui sont peut-être, comment dirais-je, qui ne concernent pas uniquement finalement la personne concernée, mais qui peuvent avoir des, comment dirais-je, une portée politique plus large.
Bien sûr.
Et les vôtres, ceux de votre famille, c'est
cela. Bien sûr, je veux dire... Une lutte politique, c'est à la fois prendre des risques et puis savoir tenir sa langue parfois, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est aussi ce que j'ai appris quand j'étais petite, c'est que la lutte politique, c'est toujours prendre un risque. Vous ne pouvez pas faire une lutte politique et penser que vous allez être tranquille. Dans ce cas, vous faites autre chose. Vous prenez un risque puisque vous opposez à quelque chose. Donc, évidemment, donc c'est le risque de savoir ça et de l'accepter. Sinon, il faut aussi beaucoup de courage, sinon bon, bah, c'est les compromissions. Hein. Après tout, on voit ça quand même beaucoup. Il y a beaucoup de tentations. Il faut savoir y résister. Résister au désir d'être, je sais pas, de devenir de simplement votre nom, quoi, si vous voulez. Et puis aux offres qu'on vous fait. On vous fait des offres d'argent, on vous fait des offres de corruption. Donc c'est vraiment, oui, c'est cette école. Et... oui, il y a des secrets, et alors parfois vous apprenez des secrets, votre morale ne les approuve pas, mais ça vous regarde pas non plus. Je veux dire, c'est pas à moi de porter jugement. Et le fait d'avoir eu cet oncle m'a aussi beaucoup donné un sentiment de la justice qui n'a pas à voir avec l'innocence. Je veux dire, si on a des avocats et si on défend, ben on défend des meurtriers, on défend des assassins. Des assassins d'enfants, même. On défend des personnes qui ont fait des choses qui, au regard de la morale, ne sont pas bien. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir une justice, hein, il n'y a pas besoin d'avoir d'avocat. On met les gens contre un mur et puis on les tue, quoi. Donc ça, ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, mais ça ne m'intéresse pas l'innocence des personnes dans des cas comme ça, si vous voulez. Tout le monde a le droit à un avocat. Tout le monde a un bon avocat. Et qu'effectivement, vous pouvez voir le meurtrier libre. C'est ça que vous devez accepter.
Vous quittez l'Algérie, vous êtes encore jeune, et vous arrivez à Paris, et là vous êtes happé par le mouvement, le MLF. Alors le MLF, ce qui est amusant, c'est que le nom, le mouvement de libération des femmes, c'est un nom quasiment décolonial, à la manière des mouvements de libération, des indépendances, voilà, qui est le colonisateur.
Oui, pour moi la question des femmes n'a pas été une question que je découvre avec le MLF, ou que je découvre en arrivant en France. Petite, ma mère était une membre importante de l'Union des femmes de La Réunion, et donc j'entendais parler de ce que les femmes, la question de la violence domestique, la question des maternités répétées, la question du racisme et du sexisme et des deux choses mêlées. Donc le sentiment d'une très grande révolte et d'une colère contre ce qu'on fait aux femmes est en moi. C'est pas une découverte. C'est pas parce que je lis un texte, c'est pas en lisant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir que je découvre que les femmes sont opprimées. Je le sais. Et même ce que j'apprends des luttes des femmes algériennes, je le sais. C'est-à-dire ce qu'on apprend aussi, c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a la plupart, elles disparaissent, quoi. Les femmes disparaissent dans un peu le côté, on les renvoie à la cuisine, si vous voulez, alors qu'elles ont été extrêmement importantes dans la lutte nationale. Donc tout ça est en moi, je veux dire, c'est pas quelque chose, donc, je suis intéressée par le mouvement pour la libération des femmes. Donc c'est quelque chose vers lequel je suis portée, presque par ma vie, quoi, ma vie de petite fille et d'adolescente, et de rage de la manière dont les garçons peuvent vous traiter, de rage dans la manière dont les hommes peuvent parler des femmes. On n'est pas des espèces de morceaux de chair, quoi.
Là, on déborde peut-être la question de l'égalité, même si elle est importante dans ce mouvement-là. On pose des questions extrêmement intimes sur la sexualité, sur la manière dont on se fabrique femme, dont on est fabriquée femme.
Oui, ça c'était aussi important pour moi, parce que c'est quand même tout ce moment de revenir à la manière dont on a construit ce que c'était qu'une femme, être une femme. Et donc de séduire, ou d'être jolie, ou d'être mignonne, ou d'être gentille, de pas parler trop fort, enfin, ces espèces de contraintes, ou de choses par lesquelles vous seriez une femme. Et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Et que ce soit par la sexualité, que ce soit aussi par la mode, que ce soit par les régimes incessants, de se conforter à une image, de se conforter à une représentation, d'être soumise au désir de l'homme, au désir sexuel, et de pas se demander lequel peut être le sien. Donc toutes ces questions qui se posent, oui, pour moi, sont absolument importantes.
Oui, on parle à l'époque du sexe des femmes qui serait colonisé par les hommes. Il y a comme ça des analogies qui sont faites.
Oui, il y a toute cette analogie, bon, qui parfois peut être problématique. Mais ce qui m'a intéressé, ce que le mouvement de libération des femmes a posé, mais qu'avaient posé les femmes dans les luttes de libération nationale aussi, ou les femmes esclaves, Sojourner Truth aussi aux États-Unis le pose, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être femme en plus d'être noire, esclave, colonisée ou d'autres. Et ça, c'est pour moi, effectivement, je le sens comme quelque chose d'important. Donc il y a vraiment cette question intime. Et ce que je trouve dans le mouvement de libération des femmes qui m'intéresse, c'est que la révolution ne peut pas être simplement l'institution d'une nouvelle souveraineté, elle a à voir avec la vie intime. La décolonisation, après tout, c'est aussi ce que Fanon dit dans Peau noire, masque blanc, ou dans Les damnés de la terre, dans le dernier chapitre, c'est que la décolonisation, elle n'est pas simplement retrouver la terre et se réapproprier la terre qui a été colonisée, mais se libérer soi-même de ce qui a été colonisé en soi, de comment notre propre conscience ou inconscient a été colonisé par des images qui nous oppriment nous-mêmes. Et que c'est-à-dire comment notre propre auto-répression, auto-aliénation.
Et pourtant, à l'époque, vous êtes à la fois, je crois, passionné par ce mouvement, ces groupes, mais vous êtes assez distancié. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque des féministes vont déposer une gerbe au pied de la femme du soldat inconnu, vous dites peut-être il y a plus inconnu encore que la femme du soldat inconnu.
C'est pas un féminisme qui m'intéresse. Enfin, c'est pas une lutte des femmes qui m'intéresse beaucoup à l'époque. Cette question d'égalité avec les hommes, de trouver la femme inconnue, du soldat inconnu. Parce que moi, je viens d'un pays colonisé. Je veux dire, je porte en moi le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud. C'est-à-dire, La Réunion, les luttes à La Réunion, j'ai vu que ce qu'on appelle la suprématie blanche aujourd'hui, Je ne peux pas m'aligner comme ça sur une idée abstraite des femmes qui seraient partout, une espèce de sororité abstraite, tout en pensant qu'effectivement il y a quelque chose qui peut relier les femmes.
Qui serait plus inconnu à l'époque, justement ?
Par exemple, en France, le mouvement des femmes, et alors là, on peut dire pratiquement tous les groupes ont été totalement indifférents à la situation des femmes. Bon, ne parlons même pas des colonies, mais de ce qui existait, puisque ça émerge dans les années 66, 68, tout ça, de ce qui existait dans ce qu'on appelle à ce moment-là les Outre-mer, ce qu'on appelle toujours les Outre-mer. Totalement indifférente au fait qu'il y a eu des femmes esclaves dans l'histoire de France, et que qu'est-ce que ça a signifié qu'il y ait des femmes noires mises en servitude, qu'est-ce que ça a signifié en retour pour la construction de la femme blanche, pour ce que c'était qu'une femme blanche, puisque donc, comment ça a été en opposition. Qu'est-ce que les femmes françaises, quels bénéfices ont-elles retirés de la colonisation, de l'histoire coloniale et postcoloniale? Il n'y a pratiquement aucune question là-dessus. Quand je dis pratiquement, oui, il n'y en a aucune.
Et puis dans les années 70, ces femmes féministes croisent des femmes qui viennent de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique, puisqu'il y a du bumidome, et que de ce fait-là, certaines femmes ont des métiers qui sont justement rattachés au service, voire à la domesticité.
Quand j'ai relu les premiers textes du mouvement de libération des femmes, qui sont des textes extrêmement radicaux, extrêmement politiques, anti-impérialistes, anti-patriarcat, anti-capitalistes, enfin vraiment très radicaux, on parle toujours des États-Unis ou d'ailleurs. En France, oui, il y a des travailleurs immigrés, il y a le prolétaire, mais on ne voit pas les femmes noires, enfin les femmes de couleur, on ne les voit pas.
Pourquoi sont-elles invisibles
dans ces textes? Donc, traduction de textes de féministes noires américaines, mais on ne voit pas ce qu'il y a. Donc, il y a du racisme, c'est les travailleurs immigrés, mais il n'y a pas d'image de ce que c'est que la République française, de ce que ça a construit, c'est-à-dire que il y a des Kanaks, il y a les terres du Pacifique, il y a des Guadeloupéennes, il y a des Martiniquaises, il y a des Réunionnaises. Aucune idée de ça, mais vraiment aucune. Mais ça a été une grosse tendance, c'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui ça se déconstruit, mais l'idée qu'avec la fin de la guerre d'Algérie, il y a une fin du colonialisme, ça va être très fort ça, c'est-à-dire que, pas dans tous les mouvements, il y a des mouvements d'extrême gauche qui continuent à voir qu'il y a du colonialisme, enfin sous d'autres formes, mais dans le mouvement des femmes, ça, c'est pratiquement pas présent, c'est très frappant. Alors que, je vous le dis, c'est un mouvement très radical, très politique. Il y a des manifestations contre la guerre au Vietnam. Je veux dire, c'est pas du tout des femmes qui font du tricot dans les salons. Hein. C'est vraiment, elles sont dans la rue, elles protestent, elles envahissent des endroits. Je veux dire, elles sont très politiques. Mais un total aveuglement.
Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'elles sont présentes, les femmes
Bien sûr, il y a des groupes. Il y a des groupes. D'abord, il y a des femmes qui viennent d'ailleurs, qui sont dans ces groupes de femmes, hein, dans tous ces différents groupes. Ensuite, il y a des choses. Je veux dire, par exemple, ce dont j'ai traité dans mon livre Le ventre des femmes, je veux dire, le scandale des avortements forcés à La Réunion est dans les journaux. Donc, elles ont connaissance de choses. C'est pas caché. On peut pas dire que on le savait pas. Mais elles ne font pas le lien. Je pense que, si vous voulez, ce qu'il y a vraiment pour les différents groupes, c'était cette idée de les femmes sont toutes dominées de la même manière. Donc, le levier de leur révolte, du discours aussi féministe. Alors, de voir un tout petit peu la question de classe, c'est-à-dire que les femmes ouvrières, c'est pas comme les femmes bourgeoises, mais alors la question raciale, coloniale, totalement oubliée.
À cette époque, vous choisissez un courant féministe qui est celui Psyché-Po, c'est ça, avec Antoinette Fouque. Qui est Antoinette Fouque et pourquoi est-ce que ce courant-là, ce mouvement, vous intéresse plus que
les
autres?
Alors, je m'intéresse au fur et à mesure, hein, parce que je me promène un peu. Mais 75, je pense. Alors, d'une part, je suis intéressée par la question de la psychanalyse, la question de l'inconscient, de penser que nous ne sommes pas simplement agis par la raison, qu'il y a aussi des questions inconscientes, que la jalousie, l'envie, la colère, ça compte dans la manière dont on pense et dont on agit, que ce n'est pas simplement des gens très, très gentils, qui faisons des maladresses, non. Donc ça m'intéresse beaucoup de découvrir, de lire tout cela. Fanon, n'oublions pas, est un psychiatre aussi qui s'intéresse justement à la question de l'inconscient, de comment l'inconscient du colonisé se met en place. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est une dimension qui était là toujours pour moi, que je ne formulais pas dans un discours, mais qui a toujours été là. C'est-à-dire de ne pas penser que c'est simplement nous sommes conduits par la raison. Et donc je me dirige vers ce mouvement, ce groupe plutôt, ce groupe à l'intérieur du mouvement. J'en deviens une des membres.
Et avec Psyché-Po, vous allez, encore une fois, vous déplacer, traverser les frontières. Vous allez en URSS.
Oui, assez tardivement, enfin, parce que donc le mouvement Psyché-Peau va ouvrir une librairie des femmes en 74 auquel je contribuerai, qui montre, si vous voulez, parce qu'il y avait pas, c'était contre l'argument, les femmes n'écrivent pas, elles n'ont pas pensé. Donc c'était d'ouvrir une librairie où il n'y aurait que des ouvrages de femmes et de montrer que non seulement dans la littérature, mais dans l'histoire, la sociologie, elles avaient écrit. Donc moi, j'écris dans le dans Des femmes en mouvement et dans le la maison d'édition des femmes. Il y a cette petite collection qui se crée, qui s'appelle les, Des femmes en lutte dans tous les pays, dont le but est de publier des témoignages de femmes qui sont en lutte, quelque part. Donc, d'aller dans ces pays où elles sont, elles écrivent, ou de recueillir leurs témoignages. Et on apprend, je crois en 79, qu'il y a un samizdat, donc c'est toujours l'Union soviétique, il y a un samizdat, donc un ouvrage dissident, clandestin, féministe, où des femmes donc soviétiques critiquent d'un point de vue féministe. Donc on est intéressé, on apprend, et donc je pars en Union soviétique avec une amie, une femme de Psyché-Peau, et nous allons donc à ce qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg, recueillir ce samizdat pour le faire traduire en France et le publier très rapidement. Et donc on recueille, on rencontre les femmes, on les rencontre, et on va recueillir ça de manière clandestine. On le cache parce qu'on était dans un hôtel et on pensait qu'on était suivis, et on le fera passer en France de manière clandestine aussi, puisque d'ailleurs on passe par Moscou et on est entièrement fouillé, mais fouillé au corps, tous les films qu'on avait sont blanchis, tous les papiers qu'on a sont détruits, donc on a une fouille très très poussée, et on quitte Moscou avec plus rien, quoi, nos vêtements c'est tout, et donc heureusement qu'on avait fait passer le manuscrit autrement, sinon il ne serait pas arrivé, puis il est traduit très rapidement, et il est publié en 80.
Alors, qu'est-ce que dit ce manuscrit ? Parce qu'il semble que Lénine ait chuchoté à l'oreille des pionnières, et bien que les cuisinières dirigeraient peut-être les affaires de l'État. Ce n'est pas le cas, c'est ça ?
Oui, ces femmes parlent par exemple à la fois des promesses qu'il y a eu, évidemment, par exemple que l'avortement est libre, mais qu'en fait du coup, il est fait n'importe comment, il est même imposé. Le fait que la domination masculine demeure, que les femmes sont toujours écrasées, et donc que toute la promesse qui était contenue dans la révolution russe n'a pas été tenue pour les femmes.
Oui, certaines sont accusées de parasitisme, voilà. Sont incarcérées dans des colonies pénitentiaires, oui, de redressement, hein, comme près du lac Baïkal.
Il y a un féminisme d'État, comme on dit, qui est un féminisme, et que si vous le suivez, d'accord, mais tout ce qui pourrait être autre chose était extrêmement réprimé, avait été réprimé très tôt d'ailleurs, hein, toutes les questions d'une autre forme, chez tous les grands poètes russes qui ont suivi la révolution, il y a une répression assez rapide des artistes et des écrivains. Donc il y avait quelque chose déjà dès les années 20-30, et là donc ces femmes écrivent ça. Donc c'est assez, c'est les années, on est en 79-80, et leur samizdat sera publié, et puis après on aidera à les faire sortir de l'Union soviétique, et un an plus tard elles quittent l'Union soviétique. Donc il y a ça, puis d'aller au Chili, d'aller ailleurs, voilà.
Et puis le Salvador.
Au Salvador, oui. Enfin au Chili c'était sous la dictature de Pinochet. De recueillir les témoignages des femmes des disparues.
Il y a toujours l'idée de recueillir des témoignages qui sont...
Dans des situations comme celle-là. Ouais. Dans des situations de dictature, de répression, de guerre. C'était quand même beaucoup cela. Donc Salvador, Chili, Union soviétique.
Alors, que se passe-t-il au Salvador ? C'est vrai qu'au Salvador, il y a tout un mythe. On dit qu'un guérillo sur trois est une femme.
Le Salvador, c'est quand je suis... aller aux États-Unis, quand je suis aux États-Unis, dans les années 80, la fin des années 80, et il y a énormément de mobilisation contre les guerres. Bon, il y a eu le scandale du Nicaragua sous Reagan, et donc toutes ces guerres qui sont soutenues par l'extrême droite américaine et par la CIA, et sur lesquelles il y a des protestations, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont massacrées. Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Et c'est un voyage qui est organisé, là je suis à Berkeley, avec des femmes pour enquêter sur les violations des droits, comment la guerre fait la guerre aux femmes, qu'est-ce que la guerre fait aux femmes, donc les viols comme outil de répression, les tortures, et comment les femmes protestent, résistent. Donc on ira au Salvador faire cette enquête.
Donc Salvador, les escadrons de la mort quadrillent depuis, bien, je ne sais pas, entre les années 1980 et 92, c'est ça un petit peu l'idée. Ah. Il y a un certain risque à se déplacer là-bas.
Oui, il y a certains risques, donc je crois que c'était en 90 ou 91, on y va, et on est reçu par les femmes qui s'appelaient Moreras por la Vida y la Dignidad, Et on est là au Salvador, on les rencontre, on est avec elles, elles nous parlent de ce qui se passe, mais devant aussi. Et elles nous proposent d'aller voir des femmes dans les campagnes, comment elles s'organisent. Donc quand on est vraiment très loin de la ville, dans les lieux où l'armée aussi, évidemment, agit avec une forte répression. C'était l'année qui suivait une des grandes offensives des guérilleros. Donc on part un matin, c'était un dimanche, on part très très tôt dans la nuit vers ces villages qui sont très très loin de la capitale de Salvador, de San Salvador, et on monte pendant plusieurs heures, et au fur et à mesure qu'on montait dans ces montagnes, on voyait une plus grande présence de l'armée, mais on se disait, bon, de toute façon, c'est la guerre, donc il y a de l'armée. Mais quand on arrive dans ces villages, qui étaient donc très haut dans la montagne, on voit toute la population du village dans un coin, très silencieuse, les bras croisés, et plein de soldats. Et là, on tombe et on est arrêté par l'armée, on est emprisonné, et là, les deux Salvadoriens sont séparés de nous. On est très, très inquiète pour eux, parce que notamment la jeune femme éclate en sanglots, parce qu'elle avait été déjà emprisonnée et torturée l'année précédente, donc évidemment. Et
puis rappelons que les exécutions sont régulières.
Les exécutions sont régulières. Il y avait eu 4 religieuses américaines qui avaient été assassinées juste à côté de la ville en allant à l'aéroport. Entre l'aéroport et la ville, elles avaient été arrêtées par ces bataillons, ces escadrons de la mort et assassinées. Il y avait des assassinats donc de personnes non salvadoriennes. Les Salvadoriens, eux, ils étaient assassinés tous les jours. Donc on se retrouve là en prison, on nous met, comment on appelle ça, les bandeaux sur les yeux, là, on nous prend toutes nos affaires, tous nos papiers, on nous interdit d'appeler nos ambassades, donc les deux Américaines et moi. On est séparés des deux Salvadoriens dont on ne les voit plus. Enfin si, à un moment donné, et je pense que c'était volontaire, on me fait passer par un couloir, là on m'avait enlevé le bandeau, et au bout d'un autre couloir, je vois le jeune homme entièrement déshabillé, juste avec son slip, tout ça, entouré de soldats, et on me fait arrêter là pour que je voie, et je pense que ça faisait partie de mise en scène. Bon, enfin je sais pas, pour lui c'était pas de mise en scène, mais pour moi, de m'avertir de ce qui pouvait m'arriver, de ce qui pouvait nous arriver. Très peu de temps après qu'on soit dans la prison, dans les cellules, on voit arriver un Américain, un grand Américain, dont on comprend qu'il est de la CIA. Donc on voit aussi tout de suite la collusion entre la CIA et ces groupes d'extrême droite qui étaient dans l'armée. Mais les femmes qui sont à l'extérieur ont tout de suite appris ce qui nous est arrivé et lancent une énorme mobilisation à Washington et en France, pour moi, pour que l'ambassade française fasse tout ce qu'il faut. Bon, enfin, ça dure un peu de temps, puis finalement, on sera quand même à cause de la mobilisation libérée.
Et vous pourrez publier ?
Et on publiera en retour les témoignages que nous avons recueillis. Enfin, avant, on va au Panama parce qu'il y avait eu l'invasion américaine, donc on va recueillir les témoignages.
L'importance de témoigner ?
L'importance de témoigner. L'importance absolument de témoigner. L'importance vraiment de dire ce qu'on fait aux gens, au nom de... qu'il n'y a pas de guerre juste, de quand même ce qu'on a fait. C'était terrible, Salvador, c'était vraiment terrible. Puis ils ont détruit un pays, hein, puisqu'aujourd'hui, ils ont vraiment, je veux dire, c'est, pour moi, la force de la destruction, qui n'est pas simplement la destruction de ville, mais la destruction psychique, vraiment de casser des sociétés, quoi, de détruire des sociétés, ce que la guerre coloniale a fait, ce que la guerre impérialiste a fait, ce que les guerres font. Vraiment, c'est... C'est pas le récit militaire de bataille et de victoire et de défaite. Ce sont des corps, des vies. Non, c'était très, 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 très bouleversant d'écouter ces femmes. C'était vraiment bouleversant. Parce que nous, après tout, nous allons partir. Nous, on était des privilégiés. Je suis restée toujours, je dis enragée parce que ça m'enrage.
Merci Françoise Vergès.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Françoise Vergès. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.